Et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Quatre sites du groupe Renault menacés en France. La marque aux losanges, qui vient d'obtenir 5 milliards d'euros de prêts garantis par l'État, voudrait notamment arrêter la production automobile à Flins dans les Yvelines. Information du Canard Enchaîné et des Échos qui interpellent les syndicats. Comment et quand organiser le second tour des municipales? Peut-être fin juin, un casse-tête pour l'exécutif. Édouard Philippe reçoit les chefs de parti ce soir à Matignon.
Alors que les enseignants et des soignants vont recevoir une prime pour le travail fourni pendant la crise, ceux qui travaillent à domicile auprès des plus fragiles, refuse d'être oublié.
La pandémie de Covid-19 encore qui progresse en Amérique latine, qui provoque des émeutes de la faim au Chili. Au niveau mondial, les populations menacées de famine pourraient doubler, alerte l'ONU. La 5e République n'avait jamais compté autant de groupes parlementaires. Ils sont désormais 9 à l'Assemblée nationale. Comment l'expliquer? Question que posera Frédéric Saïs dans son billet économique juste après ce journal. Renault, je le disais, vient d'obtenir un prêt de 5 milliards d'euros garanti par l'État pour répondre à la crise. Renault envisagerait d'arrêter sa production automobile sur 4 sites en France, dont l'historique de Flins, en région parisienne. C'est une information du Canard Enchaîné qui paraît aujourd'hui confirmée par le quotidien Les Échos, de futures restructurations qui font déjà bondir les syndicats. Bonjour Anne-Laure Jumet.
Bonjour.
Pas de démenti ni de confirmation du côté du constructeur, mais il y a quelques mois déjà, Renault avait déjà annoncé la couleur.
Oui, c'était le 14 février dernier. La patronne par intérim de la firme aux losanges, Clotilde Delbos, affirmait alors n'avoir aucun tabou et ne pas exclure de fermeture d'usines en France et dans le monde. L'an dernier, le groupe automobile avait subi ses premières pertes depuis 10 ans. Pour redresser la barre, un programme d'économie de 2 milliards d'euros sur 3 ans avait été annoncé. Depuis, le marché automobile a continué sa chute avec le confinement de la moitié de la population mondiale. Et comme les autres constructeurs, Renault affronte la pire crise de son histoire. Ses ventes se sont d'ailleurs effondré en avril. Alors l'État actionnaire à hauteur de 15% lui a garanti un prêt de 5 milliards d'euros, mais ne demandera aucune autre contrepartie que le non-versement de dividendes. Pas d'engagement donc sur le maintien de l'emploi, ce qui ne manquera pas de faire réagir si ces informations de presse se confirmaient. Fermeture des petits sites de Choisy-le-Roi, Fonderie de Bretagne et Dieppe, où sont assemblées les Alpines, 1 millier de postes au total. Et puis, il y a l'usine de Flins qui emploie 2600 salariés et fabrique notamment la Zoé, le modèle électrique phare du groupe. Le site pourrait à terme stopper l'assemblage de véhicules et se consacrer à d'autres activités. Il y a quelques jours, le gouvernement avait conditionné son futur plan d'aide au secteur automobile à des relocalisations en France. Cela sera-t-il compatible avec ces décisions de fermeture et d'arrêt de la production? Pour les annonces, il faudra en tout cas attendre, sauf changement de dernière minute. Renault doit présenter son plan vendredi prochain.
Anne-Laure Jumet, merci pour ces explications. Et c'est dans ce contexte que se tient par ailleurs ce matin un comité social et économique sur l'usine Renault de Sandouville, près du Havre, suite à la décision de justice contraignant le groupe automobile de fermer le site pour mesures jugées insuffisantes contre le coronavirus. Une décision qui avait été dénoncée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, indiquant que c'était un mauvais signal à envoyer à l'heure où le gouvernement demande aux constructeurs automobiles de relocaliser leur activité. Possible annonce de réouverture ce matin. Le secteur automobile, mais aussi l'aéronautique et le tourisme, ciblés par le plan franco-allemand de 500 milliards d'euros pour relancer l'économie sur le continent. La chancelière Angela Merkel enchaîne les entretiens à distance aujourd'hui avec les chefs de l'OCDE, du FMI, de la Banque mondiale et de l'OMC notamment. Ces 500 milliards seraient empruntés par la Commission au nom de l'Union européenne, puis alloués par elle en fonction des besoins et des demandes que feront les 27. Mécanisme expliqué par Marie Viennot.
Contrairement aux États, l'Union européenne n'a pas le droit d'emprunter pour financer son budget. Proche de 160 milliards d'euros par an, il doit être à l'équilibre. Mais elle peut emprunter pour certains programmes ponctuels. En 2011 et 2012, elle a ainsi levé sur les marchés financiers 45 milliards d'euros qu'elle a ensuite prêtés à l'Irlande et au Portugal, en grave difficulté à cette époque. Plus récemment, c'est aussi par des émissions de dettes qu'elle a financé des aides à l'Ukraine et la Jordanie. Et c'est aussi comme cela qu'elle financera le programme commun de chômage partiel. Bonne notation, AAA le plus souvent, taux entre l'Allemagne et la France, l'UE n'a pas de mal à trouver de l'argent sur les marchés. Mais jusque-là, les montants qu'elle empruntait étaient dérisoires. 65 milliards en tout depuis sa création. passer à 500 milliards d'euros, comme l'imaginent la France et l'Allemagne, c'est quasiment 10 fois plus. Ce bond en avant dans l'endettement sera étalé dans le temps, mais il sera aussi un bond dans l'inconnu. Car on ne sait pas, à ce jour, quelles recettes seront trouvées pour rembourser les échéances de dette. Les 27 pays de l'UE devront-ils augmenter leur dotation annuelle ou se mettront-ils d'accord pour de nouvelles taxes communes ? On pense à une taxe sur les géants du numérique, une taxe carbone aux frontières, peut-être d'autres idées encore émergeront-elles d'ici la discussion qui sera amorcée mais sans doute pas tranchée lors du Conseil européen de la mi-juin.
Au chapitre économique encore, une première victime du Covid dans l'audiovisuel, Next Radio TV, maison mère de BFM TV et d'RMC, anticipe un écroulement des recettes publicitaires et va donc couper dans ses effectifs et réduire la voilure dans le sport et le divertissement.
8h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. Les chefs de parti seront reçus ce soir à Matignon pour examiner une date de second tour des élections municipales.
Le scrutin devait se tenir, je le rappelle, le 22 mars dernier dans près de 5000 communes, annulé finalement à cause de la crise sanitaire. Et hier, le conseil scientifique a rendu son avis. Il conditionne la tenue d'un second tour fin juin à une réévaluation de la situation de l'épidémie 15 jours avant. Un scrutin avant l'été, c'est tout simplement inimaginable pour Stéphane Bertin, candidat à la mairie de Vaux-en-Velin dans la métropole de Lyon pendant la campagne et lors du premier tour. Stéphane Bertin ainsi qu'une dizaine de ses colistiers avaient été contaminés.
C'est Emmanuel Macron qui va décider et je pense qu'il sera raison gardée et qu'il y a un moment il va dire « Je ne peux pas demander aux gens d'aller se présenter aux élections en leur disant qu'il ne faut pas qu'ils distribuent de trains, qu'il ne faut pas qu'ils fassent de propagande, qu'il ne faut pas qu'ils fassent de porte-à-porte, qu'il ne faut pas qu'ils fassent de réunion publique parce que ce n'est pas une élection. » Et je pense aussi qu'il se dira en même temps « Et j'aurais du mal à demander aux gens d'aller voter, sachant que je demande aussi aux plus anciens de ne pas trop sortir. » C'est vrai. Il vaudrait mieux réfléchir sur le comment est-ce qu'on fait pour faire participer les gens plutôt que de brûler de l'énergie et essayer d'organiser un second tour, on essaye de voir si on peut pas organiser du vote par correspondance, essayer de voir si on peut pas faire du vote électronique ou quelque chose comme ça.
Stéphane Bertin, candidat à la mairie de Vaux-en-Velin dans la métropole de Lyon, il répondait à Boris Loumagne. Plus de 60 000 salariés de l'éducation nationale vont toucher une prime exceptionnelle de 330 à 1000 euros pour récompenser leur mobilisation pendant la crise. La grande majorité des bénéficiaires seront les enseignants volontaires pour l'accueil des enfants de soignants pendant le confinement. Prime également pour les personnels des hôpitaux, 1500 euros pour ceux qui travaillent dans les 40 départements les plus touchés par l'épidémie, dans le Grand Est, l'Île-de-France, les Hauts-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté. Dans les autres départements, calcul un peu différent en fonction des hôpitaux et des accords conclus avec les syndicats. Et alors que le gouvernement a débloqué près d'un milliard d'euros pour aider le secteur des EHPAD, le Sinerpa, le syndicat des établissements et résidences privées pour personnes âgées, qui représente également 600 entreprises qui travaillent dans l'aide à domicile, le Sinerpa refuse d'être oublié. Tara Schlegel.
Ces petites sociétés ont perdu la moitié, au moins, de leur chiffre d'affaires et beaucoup dépensé pour les repas ou les masques. Elles ignorent qui va les renflouer, s'inquiète Florence Ernest Maumé, déléguée générale du Sinerpa.
Nous ne pouvons pas accepter que le domicile soit à ce point-là toujours le dindon de la farce. Et là, je pèse mes mots. C'est allez-y, allez-y avec deux gants, allez-y avec 100 ml de gel. Il est Covid, pas Covid, on ne sait pas trop, mais allez-y quand même. Restez à un mètre, oui, la belle affaire. Pour aider aux soins d'hygiène, il faut nous expliquer comment on se tient à plus de 2 mètres de la personne. Nous, ça ne marche pas. Donc voilà, donc tout ça fait que l'amertume est totale.
Le syndicat veut quand même croire que le ministre de la Santé tiendra ses promesses. Mais l'un des problèmes est que l'aide à domicile n'est pas financée par l'État. Elle dépend des départements.
Nous disons, nous ne pouvons pas nous satisfaire de cette discussion avec les départements qui invariablement arrivera à des inégalités territoriales graves. Pour preuve, le département de la Sarthe, le département de l'Essonne ont, dès la semaine dernière, écrit en disant « Si l'État ne paye pas, nous paierons la prime ». Voilà, ils sont deux. Ah bah c'est super, ah bah ça commence bien. Et on s'est dit, eh ben zut, il va falloir faire 98 courriers pour savoir si les autres jouent le jeu également.
Dans un secteur si fragmenté où on ignore le nombre exact de salariés qui ont travaillé pendant la crise du Covid, il est difficile de demander aux employeurs qui n'ont pas les reins solides de verser cette prime. D'où l'idée, portée par trois fédérations, de la convertir en crédit d'impôt.
La pandémie de coronavirus en recul en Europe est en forte progression en Amérique latine où le Brésil a dépassé pour la première fois hier la barre des 1000 morts en 24 heures, alors que l'Organisation mondiale de la santé, très critiquée par les États-Unis, a finalement accepté une enquête sur sa gestion de la crise sanitaire. La pandémie de Covid-19 qui provoque par ailleurs des émeutes de la faim au Chili notamment, où l'armée s'est déployée hier dans les quartiers pauvres de Santiago face à des manifestants qui ont dénoncé les pénuries alimentaires en période de confinement. L'ONU avertit les populations menacées de famine pourraient voir leur nombre doubler cette année à cause du coronavirus, passant de 135 à 265 millions de personnes dans le monde, Nathalie Hernandez.
Au Chili, au Venezuela ou au Liban, la pandémie a fait monter d'un cran l'insécurité alimentaire déjà présente en raison d'une crise socio-économique installée depuis de longs mois. Désormais, la peur du coronavirus a laissé la place à celle de mourir de faim. Sans parler des pays d'Afrique subsaharienne, confrontés en plus au dérèglement climatique et pour bon nombre aux conflits armés. En théorie, les stocks devraient permettre au Programme alimentaire mondial de venir en aide à ces populations. Mais le Covid a créé des problèmes d'approvisionnement. Avec le ralentissement des échanges, certains pays exportateurs ont suspendu leurs contrats, ce qui pénalise de fait ceux qui leur sont dépendants. Trois des céréales de base, le blé, le maïs et le riz, proviennent d'une quinzaine de pays capables de produire suffisamment pour exporter, tels que la Russie, la France, les États-Unis, le Brésil ou encore le Vietnam. Or, la Russie et le Vietnam, par exemple, ont décidé de bloquer leurs exportations pour maintenir notamment des stocks stratégiques. Dans son dernier rapport, l'ONG Oxfam France estime que 500 millions de personnes risquent de sombrer dans la pauvreté avec cette crise sanitaire. Elle demande instamment à ce que les gouvernements garantissent l'accès à l'alimentation et que par la suite, ils revisitent leur politique afin de favoriser des systèmes agricoles relocalisés et de réduire ainsi leur dépendance.
Et l'un des trois pays les plus pauvres au monde, le Burundi, vote aujourd'hui des élections générales et premier tour de la présidentielle sous très haute tension, 5 ans après les violences qui avaient accompagné le scrutin précédent et le maintien au pouvoir du président Pierre Nkurunziza, ravivant le spectre d'une guerre ethnique entre Hutu et Tutsi dans ce pays. L'enjeu aujourd'hui pour le Burundi, c'est de tourner la page de l'isolement diplomatique et de la répression, Claude Guibal.
Ils parlent, mais ne veulent pas être enregistrés. Et tous disent la même chose. Sur le territoire burundais, une chape de silence est tombée depuis la réélection controversée de Pierre Nkurunziza il y a 5 ans, au mépris de la Constitution. Le pays vit aujourd'hui serein, affirment les autorités derrière un discours de réconciliation nationale. Mais la répression, disent les opposants, a tout simplement changé de forme. Elle n'est plus visible, mais elle continue silencieuse avec le musellement des médias et les disparitions forcées. Une terreur distillée par les milices proches du pouvoir tout et qui font craindre la reprise ouverte de massacres ethniques dans ce pays toujours traumatisé par une décennie de guerre civile née dans le sillage du génocide au Rwanda voisin. Le bras de fer de Pierre Nkurunziza avec la communauté internationale s'est soldé par un isolement du pays. Privé de la plupart de ses bailleurs directs, le Burundi a plongé dans la misère. Les trois quarts de la population vivent aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Ceux qui s'étaient opposés à son maintien au pouvoir sont aujourd'hui en exil, mais leur vigie sur place tente de mobiliser l'attention sur ces élections alors que les observateurs internationaux ne sont plus là pour superviser le scrutin. Les représentants de l'OMS eux-mêmes ont été expulsés. En brandissant le risque épidémique, les autorités comptent interdire les rassemblements. Si Pierre Nkurunziza ne se représente pas, chacun continue de voir son ombre derrière la candidature de son dauphin Évariste Ndayishimiye, réputé cependant plus ouvert que le président sortant.
En bref, encore à l'étranger, les forces du maréchal Haftar ont décidé de se replier de 2 à 3 kilomètres de toutes les lignes de front de la capitale libyenne Tripoli. Décision destinée à faciliter les mouvements de la population pour la fin du Ramadan. Vous pouvez retrouver ce sujet dans la revue de presse internationale de Camille Magnard sur franceculture.fr. Ce mercredi, journée mondiale des abeilles, clé de voûte de l'alimentation mondiale, un seul chiffre, 75% de la production mondiale de nourriture dépend de ces insectes pollinisateurs et principalement des abeilles, mais elles sont menacées partout dans le monde à cause notamment des traitements pesticides et désormais du réchauffement climatique. Reportage de Véronique Robérotte au fort de Sucy-en-Brie dans le Val-de-Marne où se trouvent quelques ruches municipales.
Un rapide coup d'œil à l'intérieur des ruches, le miel y est déjà abondant. Il faut dire que la nature est en avance. Ce n'est pas forcément une bonne chose, selon Dominique Senna, le secrétaire général de l'Union nationale de l'apiculture française.
Là, on est quand même aussi impacté par le changement climatique. On a un mois d'avance. Nos colonies ont un mois d'avance. C'est bien, mais ça interpelle.
Les produits phytosanitaires restent l'ennemi principal de l'abeille. Malgré l'interdiction des insecticides néonicotinoïdes, ils agissent sur le système nerveux des abeilles. Dominique Senna.
Depuis 2 ans, on a réussi à faire interdire la famille des néonicotinoïdes. Ces molécules de synthèse ont des durées de vie dans les sols de l'ordre de 1000 jours. Donc là, on est au milieu du guet. Est-ce qu'on est sur la bonne voie sur commencer à faire des sols propres de telle façon que les plantes ne récupèrent pas les résidus de pesticides? C'est possible. Maintenant, il faut rester très très vigilant parce que derrière, eh bien, les lobbies sont puissants. Un produit va chasser l'autre. Ces cocktails qui sont réalisés au niveau des épandages des produits les uns derrière les autres font qu'aujourd'hui, ces épandages se reconditionnent et donnent des cocktails qui sont détonnants.
Des intoxications majeures ont déjà été repérées ce printemps, saison des traitements dans les champs.
Le reportage de Véronique Rebérotte. Quelques mots du temps de ce mercredi 20 mai. Estival, malgré quelques pluies dans le sud-est de l'Hexagone et en Corse. Les températures seront comprises au meilleur de la journée entre 19 et 21 degrés près de la Manche. Comptez de 24 à 29 degrés partout ailleurs.